France Musique. Sous les doigts d'Horowitz.
And all the music.
Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado.
Bonjour à tous. Reprenons exactement là où nous en étions la semaine dernière. Horowitz, sur le quai, au Havre, s'embarque pour 12 jours de voyage. Destination New York. Vladimir y croit. Oui, c'est décidé. Être un pianiste européen, c'est bien, mais pas suffisant. Il veut être mondialement reconnu maintenant, jusqu'en Amérique. Pourtant, tous ses amis avaient tenté de le dissuader de partir. Il y a bien assez de stars du piano aux USA. Personne ne l'attend.
Et surtout, amusez-vous bien.
Hélène, au revoir.
Et chez lui, au revoir.
Au revoir, au revoir,
au revoir.
Au revoir.
À bientôt, adieu.
Au revoir.
Sur le bateau, il panique. Merovitch, son impresario, lui a préparé une pub insensée. Il présente son poulain comme la combinaison surhumaine de Rubinstein, Paderewski, Buzzoni, Rachmaninoff et Hoffmann et bien évidemment clame son nouveau surnom, la tornade déferlant des steppes.
Comment tu t'appelles?
Ton nom, maître. Vito Andolini, natif de Corleone.
Dès son premier pied sur terre, il devient fou. Où sont ses valises? Elles sont toutes neuves et il a collé des étiquettes sur toutes les fermetures pour s'assurer qu'elles n'ont pas été ouvertes. Sont-elles à quai? Et ces étiquettes, vont-elles laisser des taches sur le tissu? Il passe la douane, puis, en proie à une crise de panique, il demande à Merovitch de lui bander les yeux pendant le trajet en taxi qui les emmène à l'hôtel. Il ne veut pas voir la ville. Il a peur des buildings, peur des embouteillages. Il a peur de New York. Il s'en souvient bien. Les deux ou trois premiers jours là-bas, j'étais comme un somnambule. Je ne voyais rien, je ne distinguais rien. Après, ça a commencé à aller mieux. Je pouvais de nouveau tout voir et entendre. Le lendemain, première sortie, il se rend chez Steinway, où il revoit un vieil ami émigré russe, Sacha Greiner, qui s'occupe des artistes maison. C'est lui qui l'aide à choisir son piano de concert. C'est à lui que Vladimir demande comment faire pour atteindre son Graal, rencontrer Rachmaninoff. Rien de plus facile pour Sacha, qui le connaît évidemment très bien. « Rachmaninov, parfaitement au courant des succès de Vladimir à Paris avec son troisième concerto et sachant qu'il devait le donner dans les semaines à venir à New York avec le New York Symphonia Orchestra, lui propose de travailler la partition ensemble. Incroyable ! Et c'est ainsi que le surlendemain, 2 jours après son arrivée, le 8 janvier, dans le fameux sous-sol de Steinway, là où des dizaines de pianos sont alignés, ils ont rendez-vous à 15h55. Vladimir Horowitz s'en souviendra à tout jamais. Si j'étais nerveux, je pensais que j'allais mourir, pensais que ce grand homme allait m'accompagner, moi, jeune pianiste, dans son troisième concerto. Ça a été l'impression la plus marquante de ma vie et mon vrai début. Plus tard, il arrivera que Vladimir raconte avoir rencontré Rachmaninov à la demande de ce dernier.
Tout le monde pense « Oh, vous êtes si proche de Rachmaninov, il y a tant d'affinités entre vos jeux. » Mais vous savez, j'ai entendu Rachmaninov pour la première fois ici en Amérique et j'avais joué son troisième concerto en Europe et en Russie bien avant de l'entendre. Et eux ne le connaissaient pas. J'aurais pu le connaître en 17. Vous pouvez compter. J'aurais pu le connaître là-bas, mais j'ai fait sa connaissance ici. Le premier jour de mon arrivée, Rachmaninov vivait en reclus, il n'aimait pas beaucoup voir les gens, il ne voyait pas grand-chose. Et quand je suis arrivé ici, c'était mon idole, mon icône. Il a appelé les gens de Steinway et leur a dit « J'aimerais bien rencontrer le jeune qui arrive ». Il avait entendu parler de moi par Chrysler et d'autres musiciens, et je suis allé le voir. Il m'a ouvert la porte, et je me rappelle comme si c'était hier. Et à partir de cette seconde, on est devenus amis en 10 minutes. Il m'a joué des pièces de Fairy Tale de Mettner. Et puis après, comme il savait que je donnais son concerto, il l'a joué. Il n'avait pas eu un grand succès jusqu'à ce qu'il soit dirigé par Gustav Mahler, vous savez. Il m'a dit « Mon seul et unique succès, c'est avec Mahler. » Pas tant pour le public ou la créativité, mais Mahler l'adorait. Pendant la répétition, il s'arrêtait, il s'exclamait « C'est beau, c'est beau, c'est beau !» Mais après le concert, rien. Les gens ne le connaissaient pas. C'était en 1908 ou 1910, quelque chose comme ça.
Mon Dieu, que ne donnerions-nous pas pour entendre la version Mahler, Rachmaninov. Mais évidemment, elle n'est pas enregistrée. On peut au moins entendre celle que le compositeur et pianiste a réalisée avec le symphonique de Philadelphie dirigé par Eugène Ormandy. Ici, un extrait du premier mouvement.
Thank you.
De la répétition à deux pianos dans les sous-sols de Steinway, Volodia s'exclame des années après.
Oh mon Dieu, j'étais si heureux. J'étais très heureux, terriblement. Et il aimait vraiment mon jeu.
Alors écoutons maintenant la version de Vladimir. Je vous propose ici son tout premier enregistrement qui date de 2 ans après la rencontre avec Rachmaninov. Le tout premier concert de Vladimir a lieu 4 jours après, et ce n'est pas Rachmaninov qui est au programme. Le 12 janvier donc, il doit interpréter l'éternel premier concerto de Tchaïkovski. L'orchestre est dirigé par Sir Thomas Beecham. C'est un grand chef charismatique, un héritier, riche au point de s'être offert son propre orchestre symphonique. Héros de la guerre, il a été anobli. Enfin, il est connu pour tenir les solistes en piètre estime. De quoi mettre notre Volodia en miettes nerveusement. Et les deux répétitions ne peuvent que le plonger dans des angoisses abyssales. C'est un désastre. Rien ne peut les réunir. Surtout pas leur conception de l'œuvre. Beecham veut en faire une œuvre dramatique, héroïque. Vladimir veut tournebouler les têtes avec sa virtuosité. Mais ce que Beecham n'a pas saisi, c'est à quel point Vladimir a l'esprit de compétition. Il ne soupçonne pas que sous ses airs de petites choses fragiles se cache un vrai petit teigneux. On peut imaginer le trac de Vladimir en arrivant à Carnegie Hall. Il se faufile dans les coulisses et voit que tout le monde est là. Rachmaninov, Michel Levitsky, Maurice Rosenthal et même Joseph Hoffmann. Et bien évidemment, tous les critiques sont là aussi. Faut-il préciser que le concert affiche complet ? Juste avant d'entrer en scène, Vladimir sort une photo de Liszt de sa poche et l'embrasse. Je dois préciser que nous n'avons évidemment aucun enregistrement du concert dont nous parlons. Pour imaginer ce qui s'est passé, je vous propose la version avec Barbirolli et l'Orchestre symphonique de New York qui date de 1940. Vous pensez, il y a d'autres enregistrements du premier de Tchaïkovski avec Vladimir Horowitz, bien plus célèbre. Vous avez raison, mais patience, nous y consacrerons du temps plus tard. Dès les premières notes, Bicham joue plus lentement que ce qu'ils avaient finalement convenu. Vladimir essaye d'accélérer le tempo sur les grandes notes plaquées du début. Du coup, sur le thème au violon qui suit, Bicham ralentit encore. Vladimir continue à son tempo interloqué, il n'a jamais vu ça. Et Bicham, de jouer les stars, en gesticulant, comme si de rien n'était. Au mouvement lent, la lutte continue. Vladimir est désespéré. Mais Bicham, peut-il comprendre que toute sa carrière est en jeu, et même plus ?
«
J'ai débuté avec Beecham. Vous voyez, ce début avec le concerto de Tchaïkovski que j'avais choisi, je savais que je pouvais faire un son dément, une telle vitesse et un tel bruit, et tout ce genre de choses qui pouvaient rendre le public complètement fou. Et je voulais le faire. Mais inconsciemment, c'était une obligation pour ne pas avoir à rentrer dans mon pays. Je voulais avoir du succès dans le monde entier, juste pour ne pas rentrer. Et heureusement que j'ai eu du succès. Si je n'avais pas eu du succès en Europe et aux États-Unis, j'aurais dû rentrer. Mais derrière tout ça, il avait l'énergie du public et il est devenu complètement fou.
Donc, plus Vladimir joue vite, plus Beecham ralentit.
J'ai foncé droit devant, j'en avais rien à faire, parce que c'était ses débuts aussi. Et j'ai dit à mon English, « My lord, je vais vous tuer, je vais vous en faire voir. » Et j'ai commencé à jouer les octaves si rapidement que Rachmaninov m'en a fait la remarque. Tu as dépassé les bornes en volume dans ce passage, dans ces octaves. Et je peux te dire que ce n'était pas tellement musical, ce n'était pas nécessaire. Alors je lui ai expliqué pourquoi et il a rigolé.
Troisième mouvement, Volodia se rebelle franchement. On peut dire que le gringalet Vladimir Horowitz casse la figure de l'arrogant Beecham. Ils ne sont plus du tout ensemble. Il accélère, joue de sa virtuosité plus que jamais, quand bien même l'orchestre est en retard d'une mesure. Il prend le pouvoir. Mieux, il jouit de son pouvoir sur un Beecham vert de rage et impuissant. Le public explose en applaudissements pour Vladimir. Voilà, c'est clair, sa virtuosité est son arme. La presse a parfaitement compris ce qui s'était passé et s'en est délectée. Les papiers font état du cirque de la concurrence entre un chef et un soliste. Mais reste un gros problème. Dans une telle cacophonie, comment savoir quel musicien est vraiment Vladimir Horowitz ? Il a certes démontré sa virtuosité, mais pas sa musicalité. Et la malédiction Vladimir Horowitz commence. Son talent ne serait-il que sa technique ? Le Times. Jusqu'à quel point est-il un musicien authentique ? N'est-il qu'un virtuose avec son lot de techniques, de puissance et de trucs commerciaux ? Pour Merovitch, qui souhaitait un concert-spectacle pour épater le bourgeois et qui pense en communicant moderne, l'essentiel est qu'on parle de Vladimir. Il est servi. Quand bien même, Vladimir et Bicham se sont réconciliés après le concert.
Vous savez, je ne veux pas trop parler de mon collègue, mais il était plus concerné par la symphonie, par sa partie. On lui avait collé un soliste, c'était la première fois, il ne savait pas qui j'étais, et il n'avait pas regardé de très près la partition du concerto de Tchaïkovski, et il a dirigé d'ailleurs sans la partition, qu'il ne connaissait pas. Et je suis désolé de dire que nous n'étions pas ensemble. Et d'une certaine façon, on s'est plus rencontrés au restaurant après le concert que nous venions de donner ensemble, mais pas pendant le concert. C'est une vieille histoire, mais intéressante, parce qu'il n'y avait pas de querelle entre nous, parce que nous avons toujours été amis. Et 5 ans plus tard, j'ai joué avec lui à Londres, et je me souviens que juste avant, c'était encore le concerto de Tchaïkovski, il m'a dit, Monsieur Horowitz, j'ai la partition avec moi.
Immense succès donc. Vladimir a gagné New York. Mais pour lui, là n'était pas le plus important. Je n'étais qu'un sauvage, un russe sauvage. Je jouais toujours plus fort, plus vite, et encore plus de notes que Tchaïkovski n'en a écrites dans son concerto, où il y en a pourtant beaucoup. Mais ce n'est pas Tchaïkovski qui a été mon plus grand triomphe musical à New York. Ça a été de pouvoir rencontrer Rachmaninov, qui était pour moi un dieu à cette époque. De ce jour, lui et moi sommes devenus des amis, et ce, jusqu'à ce que ses yeux se ferment. Tout de suite après commence une tournée de 12 semaines et demie. 36 concerts. Concerto, il a la chance de jouer avec Stokowski et Koussevitzky, les plus renommés. Mais il ne donne à chaque fois que ses éternels premiers de Tchaïkovski ou troisième de Rachmaninov. En récital, il égrène Bach, Scarlatti déjà, beaucoup d'œuvres de Chopin et sonates de Liszt, lesquelles lui offrent un succès certain. Au point que le studio Victor Talking Machine Company le contacte pour un enregistrement et il grave quelques-uns de ses tubes, dont la sérénade à la poupée de Debussy. Cette tournée a changé le chétif jeune homme. De retour à New York, tout est plus facile. La mégapole ne lui fait plus peur du tout. Bisque rage à ses amis français, il s'était trompé lorsqu'il lui avait promis un échec. Exactement comme lorsqu'il jouait enfant dans le salon familial, il a réussi à charmer les Américains. Pour preuve, les lettres d'admirateurs par sac entier. Et puis le Boston Post, n'a-t-il pas écrit ? Il n'est ni un géant sourcilleux, comme on en trouve dans les châteaux forts des contes de fées, ni un aigle implacable et hautain qui dédaigne l'univers rampant du pinacle où perche le génie. Au contraire, c'est un enfant pensif et plein de charme qui se demande naïvement ce qui fait tourner le monde. Candide, naïf, vraiment ? Lui qui n'a jamais douté ne serait-ce qu'une seconde de son talent, convainc les journalistes de sa modestie. À la question « Saviez-vous que vous étiez exceptionnel ?» il répond
«
Oh non, c'est venu à moi avec le succès, par la réaction du public. »
Ce que les faits soulignent, c'est plutôt un narcissisme exacerbé. Voilà notre Vladimir en goguette sur la 5e avenue, en parfaite fashion victime. Car il a gagné de l'argent, et cela, ça vous change un homme. Lui qui a toujours été coquet cultive sa mise dans le moindre détail. À son teint blafard et ses costumes noirs, il ajoute maintenant une pointe d'excentricité, les chemises rouges à la folie. Il devient snob. Son anglais, un peu yaourt, prend un discret accent précieux. Il évoque, comme par mégarde, ses amis titrés en Europe. Bref, Vladimir Horowitz affecte de se conduire comme une star. Il a appris à répondre aux journalistes ce qu'ils attendent. En Amérique, on rencontre un enthousiasme tellement inattendu, alors qu'en Europe, on est beaucoup plus conservateur, si bien que pour un nouveau venu, c'est difficile de démarrer là-bas. Ici, vous êtes comme les Russes. On a l'impression que vous aimez la jeunesse, les nouveaux visages. En France et en Allemagne, ils sont si attachés à leur tête d'affiche que ça prend 25 ans à un artiste pour se faire vraiment connaître. Mais derrière ces frivolités, ces sourires enjôleurs, le chagrin est bien là, tapis dans l'ombre. Dès qu'on le questionne sur sa famille, il se rétracte dans sa coquille. Son père est un grand ingénieur, très occupé. C'est pour ça qu'il n'a pas pu venir. Son enfance ? Mais oui, très heureuse au sein d'une famille si cultivée et tendre. L'Union soviétique ? Non, non, il n'en a rien à dire. Y retourner ? Pas un sujet pour le moment. Il me semble que ce moment où Vladimir Horowitz devient célèbre et cherche à fixer son image est essentiel pour comprendre qui il est. Cacher sa mélancolie profonde, les tremblements de ses souvenirs douloureux, c'est aussi dissimuler la source de son talent, son hypersensibilité, derrière la caricature bouffonne de l'artiste.
I'm like Morton. Thank you.
Vladimir Horowitz revient en France, non sans l'assurance de 45 concerts pour la prochaine saison d'automne en Amérique. Sur le port, il a fort à faire pour surveiller ses bagages qui se sont multipliés. Mais ce qu'il regarde, là-haut, suspendu à la grue, c'est son dernier achat. Une voiture, une gigantesque Studebaker, qui va faire son petit effet dans les rues de Paris. Pourtant, là maintenant, ce qu'il veut plus que tout, c'est du calme, du repos. Débarqué au Havre, il prend la route pour Antibes. Ce sont ses premières vacances.
Faites-le plein, s'il vous plaît.
Bien. Monsieur, c'est le dernier modèle ?
Oui, pourquoi ? Il ne vous plaît pas ?
Ah si, beaucoup, ah, mais je veux bien vous faire le plein, mais par où ?
Cherchez, mon vieux, c'est enfantin. Hein.
Son assistant personnel, le bel Allemand, valet de chambre ou secrétaire, est de tous les voyages.
Un banco de 30 450 francs à faire. Qui fait ce banco ?
Banco.
Banco, c'est vous.
De toutes les parties. Et aucun de ses amis n'y trouve à redire. Cette année 1928 à Paris, Vladimir a fait la connaissance d'un très chic bostonien, Alexandre Steinert, un chef d'orchestre et compositeur de musique de films américains qui ne sont pas vraiment restés dans l'histoire. Proust, vous dis-je. Steinert et Vladimir se rencontrent chez le prince Roffredo Caetani Battiano, lui aussi compositeur, aristocrate, mi-italien, mi-anglais, qui a grandi dans un milieu mélomane. Il est le filleul de Liszt, a rencontré Brahms et Cosima Wagner, et accompagne à Bayreuth la comtesse Gräfulle, qu'on a toujours dit être le modèle principal de la duchesse de Guermantes. Mais qu'a donc pensé notre Volodia de ce monde dufteux, gris perlé, lui qui a traversé la révolution russe, rouge sang? Les fortunés Steinert, Alexandre et Sylvia, vivent au 69 de la rue Raymond, où ils ont créé un studio de musique avec deux pianos de concert. Tous les musiciens en vogue se donnent rendez-vous chez eux pour des soirées. Prokofiev, arrivé à Paris en 1920, est un familier. Vladimir se souvient de la rencontre. J'étais un gamin à l'époque. Il a apporté 5 ou 6 pièces de piano. Il m'a dit « Je voudrais vous dédier 2 de ces pièces. Choisissez. » Il avait envie que je joue son 3e concerto. Il me disait « Ne jouez pas le 2e. Il y a trop de notes dedans et je ne l'aime pas tellement moi-même. » Chez Steinert passait Germaine Taillefer, dont le vrai nom est Marcel Taillefès. Joli cadavre exquis pour cette demoiselle membre du groupe des six. Auric, Duret, Honegger, Millau et Poulenc. Eux-mêmes, amis de Picasso, Cocteau, et les liens se tissent et Vladimir papillonne et charme encore et encore, élargissant son cercle mondain. Steinert se souvient. Où qu'il fût, les gens tombaient aux pieds d'Horowitz après ses succès vertigineux de Paris, Berlin et New York. Volodya était tout le temps chez moi. Il était d'une élégance étrange, avec de belles manières, une apparence invariablement immaculée et était peu communicatif, sans pour autant se départir de ce sens de l'humour qui m'avait frappé immédiatement au déjeuner du prince Bastian. À l'époque, il passait son temps à déchiffrer des pièces de Poulenc, Rachmaninov et Prokofiev. Il était fou de Wagner et nous jouions des choses comme des extraits de la Valkyrie et d'autres fragments de la tétralogie. Il avait pour Liszt une véritable idolâtrie et plaçait toujours son portrait sur mon piano. On peut dire que Steinert est un véritable ami, l'un des rares à connaître les secrets de Volodya. Ils partent ensemble, en urgence, en Belgique, où Vladimir a l'espoir de retrouver sa sœur. Mais au dernier moment, les autorités soviétiques ont interdit à Zhenya de partir, de peur qu'elle ne reste en Europe. C'est peu dire que Volodya a eu besoin d'être consolé. Chez Steinert, Volodya a rencontré un pianiste de 17 ans, son aîné, le roi du piano de l'époque, le roi de Chopin, le créateur des œuvres de Villa-Lobos, Ducasse, Stravinsky, Prokofiev et Ravel, Arthur Rubinstein. Ils sont à l'opposé. Arthur Rubinstein est un homme joyeux, ouvert, sophistiqué, aimant les femmes, les cigares et les grands vins. Vladimir reste introverti. Certes, il se donne en spectacle, mais sans jamais se livrer. Au début, chez Steinert, les deux pianistes affichent une amitié liée à leur origine slave. Mais Vladimir est vexé quand Arthur Rubinstein joue les aînés et s'offusque qu'il donne pour bis des œuvres aussi spectaculaires que celles de Moskovski. Il voit rouge quand Rubinstein reproche haut et fort à Vladimir son immense vanité. Cette musique fait des étincelles. Arthur Rubinstein allait plus loin encore, jusqu'à accuser Vladimir, je cite, de se servir de Schumann, Mozart et Beethoven comme s'ils n'étaient que des véhicules pour son succès. Alors que tout pianiste digne de ce nom devrait, avant même de toucher un piano, s'agenouiller et rendre grâce à ces géants qui nous donnent la vie, le bonheur, le talent et l'enthousiasme. Leur rivalité est décidément à fleur de peau. Arthur Rubinstein toujours. L'amitié d'Horowitz pour moi était celle qu'un souverain témoigne à son sujet. Bref, il ne me considérait pas comme son égal. Il sortait, allait aux fouquettes, en boîte de nuit, mais se faisait toujours inviter comme s'il condescendait à me fréquenter. Rubinstein est d'autant plus exaspéré qu'il sait que sur un aspect, Vladimir ne lui arrive pas à la cheville, c'est le répertoire. Le sien est bien plus large. « Cet enregistrement date de la fin des années 50. Mais dans les années 20-30, Arthur Rubinstein jouait avec moins de rigueur, ce qui faisait hurler le public allemand. De son propre aveu, la popularité d'Horowitz lui a donné un pincement de jalousie avant même de l'avoir entendu. Le 29 mai 1931, Vladimir donne un concert au Théâtre des Champs-Élysées et Arthur Rubinstein note. Jamais je n'oublierai ces deux études en sol bémol majeur et sol majeur de Liszt, Paganini. Il y avait là beaucoup plus que pur brio et technique. Plutôt cette sorte d'élégance tranquille, ce je ne sais quoi de magique qui défie toute description, toute explication. Rubinstein raconte maintenant la fin du concert. Nous étions tous époustouflés par lui. Après son bis final, je me précipitais dans la coulisse avec les autres. Pendant qu'il se changeait, ses admirateurs hurlaient entre eux des commentaires tous plus enthousiastes les uns que les autres et moi encore plus fort. Horowitz sortit enfin de sa loge, pâle et en nage. Il accueillit ce superbe hommage avec une indifférence royale. Quand je fus en face de lui, il me dit seulement « Ah, j'ai fait une fausse note dans la polonaise fantaisie. Et moi, j'aurais bien donné 10 ans de ma vie pour n'avoir à déplorer qu'une seule fausse note après un concert. » « Cette rencontre perturbe beaucoup Arthur Rubinstein. Il a 43 ans, et si dans le passé on lui pardonnait de savonner sur certains passages, tant son lyrisme est mauvais, il sent maintenant qu'il stagne. Vladimir Horowitz va, sans le vouloir, lui donner une nouvelle impulsion. Pour quelques biographes, c'est comme on dit du chiquet, mais tout de même, Rubinstein poursuit. Tout en gardant ma conviction d'être comme musicien supérieur à Horowitz, je devais bien concéder qu'il était meilleur pianiste. Et mon amour-propre était au plus bas. L'exubérance pianistique de Vladimir, sa facilité technique faisait honte, profondément. À la persistance de mes négligences et à ma paresse d'extraire de mes dons musicaux tout ce que je pouvais en tirer. Ça en arriva au point que j'envisageais sérieusement de renoncer à ma carrière pour me consacrer à l'enseignement du piano en donnant encore ça et là quelques concerts dans des endroits comme l'Espagne ou l'Amérique du Sud où j'avais la faveur du public inconditionnel qui me prenait comme j'étais.
Nobody takes the place of anybody.
Personne ne prend la place de personne.
Nobody.
Personne.
When I came here,
quand je suis arrivé ici et que j'ai eu du succès, il y avait Rachmaninov, Paderewski, Hoffman,
Iturbi,
Neuhaus,
Schnabel,
Gieseking,
Backhaus,
Friedman,
Rosenthal,
Levin, tout le monde dans des salles pleines, sold out. Et j'avais ma place aussi.
Vladimir, qui poursuit son ascension mondaine, doit absolument rencontrer le pianiste le plus prestigieux en France, Alfred Cortot. Le maestro Cortot plaît bien à notre Volodien. C'est un dandy comme lui, mais côté clavier, il serait plutôt de l'école Schnabel. Le respect du texte avant tout. À ce moment, Cortot a 50 ans et il est au sommet de sa gloire. La relation entre les deux pianistes n'est peut-être pas des plus sincères. D'ailleurs, quand Volodia a annoncé qu'il allait prendre les cours avec Cortot, tous ses amis sont tombés des nues. Lui, si arrogant, acceptait de redevenir élève. Quant au maître, il est persuadé que si Vladimir Horowitz est venu travailler avec lui, c'est dans le but d'apprendre à jouer les doubles notes de l'étude en forme de valse de Saint-Saëns qu'il considérait comme le summum de la virtuosité. Et Cortot d'affirmer « Je ne lui ai jamais dit comment je faisais. » Cortot est une vraie peau de vache quand il demande à Vladimir comme exercice de transcrire pour quatre mains les quatuors de Beethoven. Une façon d'obliger le pianiste à se détourner de la seule virtuosité afin d'obtenir une vue globale des 32 sonates de Beethoven. Réponse du berger à la bergère. Volodia fait réellement la transcription demandée, mais en ne retenant que les défis techniques. Malheureusement, nous n'avons pas trace de ce travail. En revanche, Vladimir s'est tiré profit de l'occasion. Lui, qui a clairement un répertoire pauvre, ajoute maintenant la Passionata et la Sonate opus 101 à ses programmes. Et ça recommence. Comme dans son enfance, on lui reproche d'utiliser la palette sonore d'un Chopin sur du Beethoven. Vladimir enrage et rétorque que les sonates de Beethoven n'ont certainement pas été écrites pour de grandes salles et que son choix se justifie. Voulez-vous vous en faire une petite idée ? Même en Allemagne, sa version des sonates de Beethoven est critiquée dans la presse avec une condescendance qui doit lui faire l'effet d'une gifle. C'est un virtuose de premier plan, mais dès qu'il s'agit d'aborder une certaine profondeur des sentiments, il fait encore partie de ceux qui se débattent et luttent pour percer. Sa réputation de virtuose impénitent le poursuit. Une rencontre qui aurait pu être fabuleuse tourne au désastre. Vladimir donne le concerto en si bémol majeur de Brahms avec Furtwängler et le Philharmonique de Berlin. Dès la première répétition, Furtwängler lui dit « Nous sommes loin de l'Amérique, ici. Nous ne jouons pas comme des virtuoses. » Et Vladimir de résumé « J'ai tout de suite senti une animosité, un antagonisme de sa part. » Puis de conclure plus arrogant que jamais qu'il ne jouera plus avec cet ignorant de Furtwängler. C'est maintenant au merveilleux Gregor Piatigorsky, le violoncelliste que Merovitch a pris sous son aile, de faire ses débuts à Paris. L'impresario a demandé à Vladimir d'accompagner son ami dans un programme de sonates Beethoven-Brahms, puis en solo, une suite de Bach et une sonate de Mozart. Piatigorsky a adoré leur collaboration. Il était un autre Horowitz, différent de celui tonitruant que réclamait le public des récitals. Après la sonate de Mozart, tout en délicatesse, il y eut des rappels exigeants d'un bis. Entre deux saluts, Volodya me dit « Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? C'est un concert de musique de chambre !»« Donne-leur ce qu'ils te demandent », lui ai-je répondu avec une tape sur l'épaule. Dans la salle, il y avait Rubinstein cette fois encore. Il tombe littéralement amoureux du violoncelliste qu'il dit être le meilleur depuis Casals. Et cela donnera en 1949 une merveilleuse collaboration en trio avec Heifetz. À Paris, Vladimir Horowitz a maintenant les moyens de vivre au Majestic, où Anna de Noailles, Winnie de Polignac, Poulenc passent prendre le thé à son hôtel.
Qu'est-ce que vous voulez ? Il n'y a pas moyen d'être chez soi une minute ici.
La note, monsieur Milord.
Oh, la note ! Est-ce qu'elle est juste ?
Très juste, monsieur.
Bon, pour un cure-dent.
Certes, il mène la grande vie et place son argent en bourse. Mais du coup, lorsque la crise de 29 arrive, il perd 70% de sa fortune. Lui, qui a déjà été déclassé une première fois avec la Révolution, qui a vraiment souffert de la pauvreté à Berlin, le vit très mal. Et nous verrons qu'il aura parfois des comportements d'une pingrerie révoltante. Après cette mésaventure, Vladimir commencera à collectionner des œuvres d'art, une valeur plus sûre. Il tourne en Europe et fait chaque année une grande série de concerts aux USA. Une vie apparemment réglée comme du papier à musique. Sauf que Hudson, son tourneur américain, dirige Columbia maintenant et devient le plus important organisateur de concerts sur tout le territoire, ce qui veut dire qu'il peut accéder au réseau des petites villes. Le rythme des tournées devient inhumain. Pour la saison 29-30, Horowitz enchaîne 77 concerts en un semestre. Mais en échange, il peut faire ses 3 concerts à Carnegie Hall. C'est le prix à payer.
I'm staying here at the Grand Hotel. It's terribly expensive here, Heinrich. Oh, but it's wonderful.
Grand Hotel.
Je vis dans un pullman, résume-t-il. Je ne fais qu'aller d'un train à un hôtel, d'où je vais à la salle de concert, puis à nouveau à l'hôtel, jusqu'au train suivant. Je joue presque chaque soir, et dans le train, je lis. En vérité, il déprime. Ses déplacements l'épuisent. Il s'ennuie dans les interminables voyages pendant lesquels il ne lit pas du tout, mais joue au poker avec l'inséparable Merovitch, toujours là, et son cher secrétaire assistant, qui ne le quitte plus d'une semelle. Pour faire diversion, il perfectionne son rôle de star. Obsédé par les voitures, il achète maintenant une Rolls et se fait photographier, appuyé sur le capot, en habit et chapeau claque. Il fanfaronne devant les journalistes provinciaux, évoque ses 3 pianos qui le suivent partout. Un très grand pour jouer avec orchestre, un autre plus petit pour les récitals dans les très grandes salles et le troisième pour les salles courantes. Il annonce même qu'il va se retirer 2 ans dans un chalet en Suisse pour composer. En fait, Vladimir a un plan bien intéressant à connaître quand on sait qu'il passera de longues années sans jouer. Dès les années 30, donc à l'âge de 26-27 ans, il a l'intention de faire le maximum de concerts jusqu'à 40 ans, gagner beaucoup d'argent, puis s'arrêter. Gloriole, derrière ce miroir aux alouettes, Vladimir Horowitz subit plusieurs revers ces années 30. Certes, il a su conquérir enfin le public anglais. Il enregistre même le 3e de Rachmaninoff avec le London Symphony Orchestra dirigé par Albert Coates. Mais il se fait méchamment descendre à Vienne et New York pour son interprétation des œuvres de Brahms. Le New York Times n'y va pas avec le dos de la cuillère. La clameur positivement grotesque qui avait sonné la fin de la rhapsodie de Brahms en sol mineur, où il tonitruait en traits paroxystiques, avec de singuliers déchaînements d'accent écrasants et de soudaines accélérations quasi spasmodiques, pour le pur plaisir d'accélérer. Cette version, pourtant tardive de 1953, justifie peut-être un peu les réticences de la critique.
Thank you.
Non, tout n'est pas gagné. Oui, Vladimir Horowitz pourrait encore être une étoile filante. Ce que confirment Piatigorsky et Milstein. Ils estiment tous les deux que Merovitch mettait Volodia en danger. Milstein a peur que Volodia ne gâche sa précieuse poésie à force de démagogie. Cela se confirme quand en 1931, ils font voyage ensemble vers New York. Merovitch leur sert le même discours à tous trois. Jouer des œuvres courtes, faciles, efficaces. Cette direction commerciale de Merovitch convenait beaucoup moins à Milstein et Piatigorsky, et le conflit a éclaté quand l'impresario a voulu les réunir en trio à Carnegie Hall pour faire un coup. Et ce fut un fiasco dont il ne reste heureusement aucune trace. Merovitch a poussé chacun d'entre eux vers la virtuosité qui va à l'encontre de l'esprit de la musique de chambre, et leur manque de pratique en trio a été immédiatement fustigé. Le tout est inférieur à la somme des trois, résume toujours le New York Times. Dans peu de temps, en automne 1932, la vie de Vladimir va basculer. Il vient de recevoir l'invitation, autrement dit un ordre, du grand Toscanini pour un concert de clôture lors d'un cycle prévu en 1933. Il s'agit du Concerto L'Empereur. La rencontre avec Toscanini, toute une histoire. Une histoire que je vous raconterai la semaine prochaine. Nous avons longuement parlé de Rachmaninov aujourd'hui et j'ai évoqué l'enregistrement que Vladimir a fait à Londres en 1930 de son troisième concerto. Cet enregistrement était très particulier puisque la technique des 78 tours obligeait à enregistrer par plage de 4 minutes. Il s'agit donc d'un format réduit du concerto. Évidemment, c'est un témoignage passionnant, mais ce n'est pas l'enregistrement que Vladimir préfère. Il aime celui qu'il a réalisé avec Fritz Reiner et l'orchestre symphonique de la RCA Victor. Thank you. Nous venons d'entendre un extrait du troisième concerto de Rachmaninov avec bien évidemment Vladimir Horowitz et l'orchestre symphonique de la RCA Victor était sous la direction de Fritz Reiner. C'était « Sous les doigts d'Horowitz », une émission d'Emmanuel Franc, réalisée par Christine Amado et préparée par Françoise Monteil, à la technique Emmanuel Arming. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine et je vous donne rendez-vous pour la suite de notre saga, pour la cinquième émission consacrée à Vlado, Vladimir Horowitz, samedi prochain à 11h. Et d'ici là, bien sûr, vous pouvez nous retrouver en podcast sur francemusique.fr.
À réécouter sur francemusique.fr.